en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le secrétaire perpétuel, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les membres de l'Académie, mesdames et messieurs les directeurs d'études de l'École pratique des hautes études, chers collègues, mesdames, messieurs, en cette année 2018, où l'École fête son 150e anniversaire, vous avez voulu, Monsieur le Président, honorer notre institution avec laquelle votre académie entretient des liens étroits et m'inviter à intervenir dans le cadre du cycle d'allocutions consacré cette année à l'opinion publique. Soyez-en vivement remerciés. Les histoires de nos institutions respectives se croisent parfois, puisque 18 membres et 3 correspondants de votre académie ont été directeurs d'études à l'école, sans parler de celles et ceux qui y furent élèves. Articuler l'anniversaire de la vénérable institution que j'ai l'honneur de présider avec la réflexion importante et si actuelle que vous menez sur l'opinion publique constitue un défi stimulant et c'est avec une reconnaissance mêlée d'appréhension que j'ai accepté de le relever. Fondée en 1868, l'école pratique avait 4 sections à sa création, mathématiques, physique, chimie, sciences naturelles et physiologie devenues sciences de la vie et de la terre, et sciences historiques et philologiques. En 1886, lui fut adjointe une 5e section de sciences religieuses, et c'est en 1947 que fut créée la 6e section des sciences économiques et sociales. Sur les 6 sections qu'a connues l'école, il en reste aujourd'hui 3, puisque les 2 premières furent supprimées dans les années 1980 et que la 6e prit son autonomie en 1975 en devenant le HESS. Comme il s'agit cet après-midi d'érudition, mon propos se concentrera sur les 3 sections de sciences humaines et sociales. Il s'appuie sur le gros ouvrage collectif que notre collègue Patrick Henrier a orchestré, rassemblant les études et les notices d'une 100aine de contributeurs. Cet ouvrage, l'École pratique des hautes études, invention, érudition, innovation de 1868 à nos jours, fait plus de 700 pages, richement illustrées. Nous aurons bien sûr, à sa parution, le plaisir d'en offrir un exemplaire à votre académie. C'est dans cette somme qu'ont été puisés les éléments historiques qui vont venir, complétés ça et là par la consultation de notre dictionnaire prosopographique en ligne. Afin de ménager la modestie de mes collègues, je ne mentionnerai que les noms de directeurs d'études décédés. Je me suis assigné une seconde contrainte qui consiste, pour les noms des 19e et 20e siècles, de ne citer que des noms de directeurs d'études, directeurs de laboratoires, répétiteurs ou chargés de conférences de l'école. À l'exception de Victor Duruy, qui fonda l'école, d'Alfred Dreyfus et d'Émile Zola, tous les patronymes que je mentionnerai, tous, ont été des personnels scientifiques de l'école. Beaucoup sont mieux connus à un autre titre, comme membres de l'Institut ou du Collège de France, par exemple, ou encore pour leur engagement social ou politique. Et peut-être découvrirez-vous ainsi qu'ils ou elles ont apporté une contribution significative à l'histoire de notre école. D'une brève enquête lexicale dont je vous épargne les étapes, je retiendrai que l'érudition est un savoir approfondi, qu'il est passé de la philologie à l'histoire avant de voir son usage se généraliser à tous les champs de la connaissance et qu'il contient une dimension d'enseignement, ce souci de transmettre propre à toute école et à la nôtre en particulier. Quant à l'opinion, son champ sémantique couvre un spectre assez large. Elle désigne, certes, les jugements ponctuels, collectifs, souvent variables, parfois labiles, cela même que les sondages d'opinion s'efforcent de mesurer. Mais l'opinion, c'est aussi l'ensemble des attitudes d'esprit dominantes à l'égard de problèmes généraux, collectifs et actuels, qui reflètent donc des tendances lourdes d'une société donnée. Valeurs et convictions qui reflètent ces tendances, point de controverse qui partagent les acteurs. Si l'école pratique des hautes études a joué un rôle dans l'opinion, ce n'est pas tant dans le domaine des débats d'idées animés par la presse et les médias, et qu'on ne voit aucun mépris de ma part à leur sujet, mais plutôt dans une contribution aux évolutions fondamentales et lentes, par sa manière de repenser et de poser à nouveau frais certaines questions en revenant aux sources. Pour le résumer en une comparaison marine, on pourrait dire que les rapports que le PHE entretient à l'opinion font penser à des courants qui circulent dans les fonds sous-marins, invisibles mais puissants, plutôt qu'à des vagues spectaculaires qui déferleraient sur le rivage. Au risque de paraître immédiatement contredire cette thèse avec un exemple médiatique, je commencerai par une évocation de l'affaire Dreyfus. Le 8 novembre 1897, Gabriel Monod publie dans Le Temps et dans le Journal des débats une lettre où il expertise en historien le fameux bordereau qui avait incriminé Dreyfus, ce qui lui permet de conclure à l'innocence du capitaine. Quelques semaines après cette première intervention publique d'un savant dans l'affaire, le 10 janvier 1898, et je rappelle que le J'accuse de Zola est publié dans l'Aurore le 13 janvier, le chimiste Émile Duclos fait paraître dans Le Siècle un article où, se rangeant aux côtés de Monod, il réfléchit sur l'affaire comme savant, je cite. Si, dans les questions scientifiques que nous avons à résoudre, nous dirigions notre instruction comme elle semble l'avoir été dans cette affaire, ce serait bien par hasard que nous arriverions à la vérité. Nous avons des règles tout autres qui nous viennent de Bacon et de Descartes. Gardez notre sang-froid. Ne pas nous mettre dans une cave pour y voir plus clair, croire que les probabilités ne comptent pas et que 100 incertitudes ne valent pas une seule certitude. On reviendra sur Gabriel Monod, sans doute l'historien le plus influent de France. Émile Duclos est, quant à lui, directeur de l'Institut Pasteur depuis la mort du maître et rattaché en tant que directeur du laboratoire chimie-physiologique où il enseigne de 1889 à sa mort. Les deux premiers intellectuels intervenus dans l'affaire en revendiquant l'utilisation des méthodes et de la rigueur scientifique afin d'établir la vérité sont donc deux figures de l'EPHE. Si le rôle d'autres prestigieuses institutions telles que l'École des Chartes ou l'École normale supérieure comme pourvoyeuse de grands intellectuels dreyfusards est connu, celui de l'École pratique des hautes études n'apparaît pas moins important. Régulièrement confrontés à des problèmes de falsification, les historiens ont l'habitude du document ancien. Ils peuvent traiter la question des preuves de la culpabilité de Dreyfus avec compétence et sans passion. À propos du billet produit lors du procès Zola, Arthur Giry, chartiste et directeur d'études adjoint à l'EPHE, écrit le 23 août 1898 dans Le Siècle, « Tel savant qui s'applique à l'étude d'un diplôme mérovingien, dont l'original est perdu et dont il ne connaît que des copies, arrive à démontrer, sans conteste, d'après les formules de politesse, d'après l'emploi de certaines expressions, d'après l'agencement des phrases, que ce document n'émane pas du souverain auquel il est attribué, et à déterminer l'époque à laquelle il a été forgé. Ce sont là résultats rigoureux et certains, et dont seuls peuvent s'étonner ceux qui ne sont pas familiarisés avec les méthodes. Et l'on contesterait qu'il soit possible, sans voir l'original, d'appliquer avec succès au billet en question des procédés analogues de critique. Dans ce contexte, on ne s'étonnera pas de voir la forte présence des enseignants de l'EPHE à la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, créée en juin 1898. Aux côtés de l'helléniste Jean Psicari, qui en est le cofondateur, se trouvent au comité Émile Duclos, Arthur Giry, Louis Havet, Paul Passy, Édouard Grimaud, Léon Marillier. L'engagement des historiens de l'école dans le camp dreyfusard annonce le rôle croissant que la science va jouer dans les enquêtes criminelles. Tandis qu'on commence à maîtriser la technique des empreintes digitales, les érudits mettent en œuvre leur propre méthode qui annonce la police scientifique. Du reste, leur engagement dit autre chose, car cette mise en œuvre scientifique n'est ni déconnectée de la réalité politique, ni neutre par rapport aux clivages idéologiques qui qui parcourt la société française de la fin du XIXe siècle. Dans la guerre des deux France, la science est l'allié résolu de la revendication de la liberté d'expression et de l'égalité des droits, d'un républicanisme qui affronte le camp catholique, monarchiste et conservateur. Ce lien entre l'érudition et plus largement la science et l'engagement dans les combats de la société, avec la volonté de faire évoluer les mentalités, prend tantôt une forme militante, ou celle d'un engagement politique, ou encore celle de la mise au service de l'expertise pour étayer et nourrir la décision des gouvernements. Parmi les Dreyfusards de l'EPHE, mentionnons le phonéticien pacifiste que fut Paul Passy. Il occupa la chaire de phonétique générale et comparée pendant plus de 30 ans et dès le début, il accepta des femmes à ses cours. Membre de la SFIO à sa création en 1906, se revendiquant comme socialiste chrétien, il fonda en 1909 une colonie agricole dans l'Aube où se pratiquait un semi-collectivisme. En 1913, Paul Passy fut temporairement révoqué de son poste à l'EPHE pour avoir prôné la désertion en masse en réplique à la loi des 3 ans. Mais la guerre déclarée, il estima que la France se battait en état de légitime défense. Passy est un exemple assez typique de savant engagé. Du reste, pour lui, la phonétique n'est pas une discipline théorique, mais l'un des aspects de son engagement politique et social. Il milite en particulier pour une orthographe simplifiée qui devrait, considère-t-il, contribuer à la réduction des inégalités sociales. Dans le domaine de l'engagement politique au sens strict, il faut mentionner Paul Bert, directeur du laboratoire de physiologie de l'EPHE, où il a été l'élève de Claude Bernard, de 71 à sa mort. On trouve chez lui un lien fort entre les compétences scientifiques dans de nombreux domaines, physiologie, médecine, chimie, mécanique, astronomie, et l'implication politique, d'abord comme rapporteur de la commission sur l'enseignement, puis comme ministre de l'instruction publique et des cultes. Dans le même ordre d'idées, citons Marcelin Berthelot, un des artisans de la création de l'école, qui prend la direction de la section de physique et de chimie. Cet avocat de l'interdisciplinarité, passionné par l'histoire des sciences et l'épistémologie, est aussi un ardent défenseur de la séparation des églises et de l'État. Comme ministre de l'instruction publique, il s'efforce lui aussi de corréler dans sa pensée comme dans son action enjeux scientifiques et réflexions philosophiques. Dans le domaine des sciences sociales, évoquons l'économiste Adolphe Landry, député radical socialiste de Corse et maire de Calvi, plusieurs fois ministre sous la Troisième République, qui fut l'un des inspirateurs du Code de la famille et dont les convictions natalistes l'amenèrent à généraliser les allocations familiales. Certes, l'EPHE ne saurait revendiquer pour elle seule le mérite de l'action de ces personnalités, mais la science reçue et cultivée à l'école. Cette composante qu'on peut qualifier d'érudite au sens large, vu tout à l'heure, a sans conteste donné une coloration, une autorité et un crédit à leur engagement. Et ce n'est d'ailleurs pas à sens unique. Pour Jean-Pierre Vernant, l'engagement dans la résistance a précédé la carrière du chercheur. Mais l'homme est tout un, et le conflit mondial a pesé dans les choix intellectuels de celui qui veut travailler sur la Grèce ancienne en 1948. Influencé par la psychologie historique d'Ignace Meyerson et par l'approche sociologique de Louis Gernet, il s'attache à mettre en lumière l'univers mental des anciens Grecs en montrant comment les mythes, les représentations, les pratiques religieuses et différents aspects de la vie sociale et politique s'éclairent mutuellement et permettent de donner une image cohérente à la pensée grecque dans la diversité de ses manifestations. Le passage du mythe à la raison, la naissance de la parole et de l'espace politique dans la cité, l'intelligence rusée, la place du sacrifice sanglant dans les pratiques et représentations sociales et politiques, la mort, les différentes facettes de l'altérité, le regard, le masque, le visage, tous ces thèmes qui traversent l'œuvre de Vernant, par laquelle il a révolutionné la compréhension que l'on avait des anciens Grecs, représente aussi une façon pour le savant de donner des clés d'interprétation de notre propre époque. Pour Germaine Tillion, c'est la formation initiale à l'EPHE, où elle suit les cours de Marcel Mauss, qui a déterminé le choix de l'ethnologie. Son mémoire de diplôme, intitulé « Morphologie d'une république berbère, les A. Abderrahman transhumants de l'Aurès méridionale », fit l'objet d'un rapport établi par Louis Massignon. On ne peut rendre ici justice à l'œuvre et à l'enseignement de cette femme exceptionnelle. Ses premières missions algériennes chez les Chaouis avant-guerre, son engagement dans la résistance, dans le groupe du Musée de l'Homme, sa déportation et sa détention à Ravensbrück, son intégration au CNRS et les nombreuses missions qu'elle accomplit à nouveau dans les Aurès, son action pour créer en Algérie des centres sociaux censés combattre la clochardisation de la population, sa dénonciation de la torture pendant la guerre d'Algérie, son rôle au gouvernement en faveur de la mise en place d'un enseignement dans les prisons en France. Tout cela est antérieur à son élection à la 6e section en 1959. Mais toutes ces expériences et ces engagements ont nourri l'œuvre et l'enseignement de Germaine Tillion dans le cadre du séminaire d'ethnologie du Maghreb, comme la poursuite de ses prises de position anticolonialistes et de son engagement en faveur de l'émancipation des femmes. J'ai mentionné Louis Massignon comme son rapporteur. Ce catholique engagé, grand islamologue, enseignait déjà au Collège de France depuis 1926, lorsqu'il fut élu directeur d'études à l'EPHE en 1932. Il mit sa notoriété scientifique au service de causes morales et humanitaires, notamment aux côtés des réfugiés arabes de Palestine en 1948. Dans la défense du roi du Maroc, exilé par les autorités françaises en 1953-55, en faveur des Maghrébins immigrés en France au moment de la guerre d'Algérie, il tissa et entretint des rapports étroits avec les intellectuels du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. Deux directeurs d'études se signalèrent par leur engagement européen, Gilson et Cogève. Le nom d'Étienne Gilson est d'abord associé à de multiples chapitres de la philosophie médiévale, mais ce fut aussi un infatigable militant du droit des peuples à l'existence et à la liberté, à la culture et à l'enseignement. Il milita dans le cadre de l'organisation qui préfigurait l'UNESCO, fut membre du Conseil national de la Résistance, fit partie de la délégation française à la conférence de San Francisco qui préparait la création des Nations Unies. Et il défendit au lendemain de la guerre les intérêts de la France dans les instances européennes naissantes. Alexandre Cogève est connu comme le grand introducteur de la philosophie hegélienne en France. Il commentait la phénoménologie de l'esprit dans des conférences à l'EPHE que suivaient notamment Raymond Aron et Éric Weil, Henri Corbin et Jacques Lacan. Il fut aussi un négociateur international de ce qui allait devenir les accords GATT et secrétaire de l'Organisation européenne de coopération économique. C'est du reste en pleine séance de travail à Bruxelles qu'il mourut il y a 50 ans, le 4 juin 1968. Du successeur de Gilson à la chaire Histoire des doctrines et des dogmes, le médiéviste Paul Vigneault, lui aussi intellectuel engagé, on retiendra le rôle de membre actif du Comité national de l'Action catholique et de la jeunesse française, de militant à la jeunesse ouvrière chrétienne et l'action syndicale à la CFTC. Vigneault fut également pendant la guerre l'un de ceux qui enseignait à l'École libre des hautes études de New York. Cet établissement, fondé en 1942, était en quelque sorte une EPHE en exil, un instrument de résistance intellectuelle dans lequel s'étaient investis des directeurs d'études comme l'historien des sciences Alexandre Coiré, le sociologue du droit Henri Lévy-Brull ou l'anthropologue Claude Lévi-Strauss. Il publia la revue Renaissance. Installée à proximité de la New School of Social Research, elle était financée par la Fondation Rockefeller, dont on sait qu'elle soutint généreusement la création, en 1947, de la 6e section des sciences économiques et sociales. Et je termine cette partie prosopographique en nommant trois représentants d'un mode d'action différent, qui consiste à peser sur l'opinion en éclairant les décisions des gouvernements. Parmi ces serviteurs de l'État, qui emploient leur érudition et leurs compétences à conseiller les décideurs. Rappelons Daniel Servius, spécialiste de philologie grecque, mais aussi très impliqué en politique, partisan convaincu du libéralisme économique et libre-échangiste. André Chastel, qui joua un rôle déterminant dans la politique culturelle de la France des années 1960 à 84, qui fut l'un des principaux artisans de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France, et qui milita pour la création d'un institut d'histoire de l'art qui devait être fondé en 2001, l'INHA. Et puis votre confrère, Jean Fourastier, dont il a été question ce matin encore, l'inventeur des Trente Glorieuses, spécialiste d'économie politique, dont les travaux sur les prix relatifs, la productivité, le progrès technique, renouvelèrent profondément l'approche du marché. À certains égards, la récente fondation du CEDRE, Centre européen des études républicaines, au sein de l'université PSL, voulue et portée par trois de ses établissements, l'ENS, le HESS et le PHE, obéit à une démarche comparable. L'idée de république, loin d'être un monopole français né en 1789, appelle des travaux qui nécessitent de remonter à la première modernité, si ce n'est à l'Antiquité. Et si l'on entend agir sur le débat public à son sujet, il faut lui restituer toute sa profondeur historique qui réclame la plus haute érudition. Mais revenons au point de départ. Dans son rapport sur l'enseignement supérieur de 1868, Duruy déplorait que, par opposition aux mœurs studieuses de l'Allemagne, le goût du public français pour les études sévères s'émousse et s'affaiblit, qu'en dehors de l'Académie des inscriptions et l'École des chartes, l'érudition nous effraie, enfin que les facultés des lettres et des sciences sont, en plus d'un lieu, languissantes, et que nulle part elles ne réunissent un public d'élèves assidus. En s'efforçant de donner aux savants, par la création de laboratoires de recherche, les moyens de développer leurs travaux et d'enrichir la science de découvertes nouvelles, de donner aux étudiants la possibilité de ne pas voir la science que de loin, mais de se former par la pratique, le ministre de l'Instruction publique entendait transformer profondément le rapport que la société française entretenait avec la recherche et l'enseignement supérieur. En sciences historiques et philologiques, cette pratique impliquait que les élèves soient formés en travaillant directement sur les textes, les comptes rendus de fouilles ou le terrain, dans un cadre collectif et une relation de proximité avec les savants en activité. Ce modèle réussit, et même en tenant compte de la part d'autosatisfaction institutionnelle et d'emphase inévitable en pareilles circonstances, le cinquantenaire de l'école allait en administrer la preuve. L'armistice n'étant pas encore signé en juillet 1918, cet anniversaire fut célébré en décembre 1921 en présence du président de la République et du ministre de l'Instruction publique. Il fournit l'occasion au grand philologue Louis Havet, fils de votre confrère Ernest Havet, de retracer l'histoire de l'école qui se confondait à ses yeux avec celle de la section des sciences historiques et philologiques qu'il présidait. La quatrième section était présentée comme une école distincte et comme, en France et peut-être sur la planète Terre, le seul établissement d'instruction publique consacré tout entier et exclusivement à l'érudition. La cinquième section, qualifiée de « jeune sœur », en était comme une annexe dont la tâche consistait à étudier les sciences historiques et philologiques concernant le passé des religions. Dans ce domaine de la philologie et de la linguistique, on ne saurait énumérer les noms des savants spécialistes de langues rares ou méconnues. On peut en revanche rappeler le rôle central joué dans la fondation de la sémantique par le grammairien Michel Bréal, lui aussi engagé en faveur des études en France et de la réforme de l'orthographe. C'est, par ailleurs, dans sa maîtrise de conférence de grammaire comparée que, pendant 10 ans, Ferdinand de Saussure jeta les bases de ce qui allait devenir son cours de linguistique générale à l'Université de Genève. Lui-même s'était formé en suivant les enseignements de Louis Havet et de Michel Bréal, ainsi que du sanskritiste Albert Bergaigne, de l'iranologue James Darmstetter et du romaniste Gaston Paris. C'est à l'école qu'il conçut sa théorie de la langue comme système, à partir d'une connaissance exhaustive des langues indo-européennes et sur la base d'une analyse quasi structurale de la morphologie et de la phonologie indo-européenne. Mentionnons encore les travaux d'Antoine Meillet en grammaire comparée, notamment en arménien. Son esquisse d'une grammaire comparée de l'arménien classique de 1903 reste encore à ce jour un ouvrage de référence. Puis ceux d'Émile Benveniste, dans une veine qu'on appellera bientôt structuraliste, sur la grammaire sogdienne et d'autres langues iraniennes, le hittite et le tocharien. Et le rôle enfin d'André Martinet, dont la promotion de l'analyse fonctionnaliste de la linguistique. Or, principalement philologique, au milieu du XIXe siècle, l'érudition avait été gagnée par l'histoire. Cette discipline dominait, elle avait phagocyté le terme en même temps qu'elle annexait des sciences auxiliaires telles que l'emblématique, l'héraldique, la sigillographie, la numismatique. On est depuis largement revenu de cette annexion. On a redécouvert l'intérêt propre de ces disciplines, comme celui du reste des langues rares, que le recours récent aux bases de données et aux humanités numériques ont bien rajeuni. Mais l'érudition, à cette époque, s'était historicisée, notamment à la fin du XIXe siècle, avec l'école méthodique animée par Gabriel Monod, directeur d'études et président de la 4e section, dont on a rappelé le rôle dans l'affaire Dreyfus. La revue historique, fondée en 1876, a joué un rôle considérable dans la diffusion d'une connaissance historique assurée et de méthodes rigoureuses. Mais l'école a aussi été le berceau de la sociologie, avec Marcel Mauss, directeur d'études de religion des peuples non civilisés et président de la 5e section avant d'être élu au Collège de France en 1931. Et elle a été à la pointe du refus de cette érudition classique, notamment en la personne de Lucien Febvre, élu en sciences religieuses sur une chaire d'histoire de la réforme et du protestantisme. Febvre était très concerné par les questions de structuration de l'enseignement supérieur et de la recherche, comme membre et vice-président de la commission ministérielle d'études pour la réforme de l'enseignement, plan Langevin-Wallon, 44, et comme membre du directoire du CNRS. Febvre fut aussi le grand animateur de l'école des annales et le fondateur de la 6e section, où l'on promouvait une histoire totale, qui ne devait plus se limiter aux sujets politiques, militaires ou diplomatiques. Or, en secouant les habitudes des historiens traditionnels, ce moment d'émergence des sciences sociales et cette période de l'école des annales furent bénéfiques aux érudits qui investirent des champs jusqu'alors délaissés. Les travaux conduits respectivement en histoire monétaire et en sociologie des religions et du droit par vos confrères Émile Jamme et Gabriel Lebrasse, en histoire économique par Pierre Goubert et Ernest Labrousse, en sont les preuves. Gardons-nous d'oublier ce grand artisan de la promotion des sciences humaines et sociales qu'était Charles Morazet, qui sut prendre le risque d'une synthèse entre des domaines jusqu'alors souvent pensés séparément, la démographie, l'économie, les sciences. Ou cet autre grand esprit universel qu'était Fernand Braudel, et qui, en disciple de Febvre, en appelait à l'écriture d'une géo-histoire. On aurait tort d'oublier, il faut y ajouter les noms de Lévi-Strauss, qui dialoguait de manière féconde avec les historiens dans le cadre d'une anthropologie structurale naissante. L'histoire des mentalités naissantes, promue notamment par Jacques Le Goff et Robert Mandrou, qui ont enrichi ensuite la nouvelle histoire et inspiré des recherches en histoire des sciences, des savoirs et des techniques. On pense bien sûr à nouveau à Alexandre Coiré, mais aussi à Guy Beaujouan en sciences, à Bertrand Gilles pour l'histoire des techniques, ou encore à Mirko Guermec pour l'histoire de la médecine. Chacune de ces personnalités incarne à sa façon la profonde mutation que l'histoire a opérée au cours du second XXe siècle, au point que plus personne ne la cantonne au règne traités et batailles. Quant à l'histoire de l'art, Même si la logique de la pure érudition, qui analyse les œuvres et leur attribution, garde droit de cité, la sociologie des arts plastiques promue par Pierre Francastel a contribué à faire émerger une nouvelle histoire de l'art qui prête attention à l'époque, au contexte de création, dans une évidente proximité avec l'école des Annales. À l'articulation de l'érudition ou d'une insondable culture et de l'opinion, on ne saurait omettre de mentionner des francs-tireurs de la pensée dont la profondeur et l'originalité des idées ont fortement marqué leur époque. Jacques Lacan, qui aurait voulu créer à l'école une direction d'études de psychanalyse, mais n'y fut que chargé de conférences. Son séminaire, qui se tint à Rudulm à l'ENS de 1964 à 73, était en fait placé sous l'égide de l'EPHE. Quant à Roland Barthes, il fut élu à la 6e section en 1962 et y déploya ses recherches et réflexions en sémiologie linguistique et photographique avant d'être élu au Collège de France. C'était déjà un auteur célèbre qui avait publié « Mythologie ». Son séminaire était comble, le grand public se pressait pour l'écouter. Pour Barthes, cet afflux d'auditeurs contredisait l'idée du séminaire. Il y parlait, il instaura alors une alternance. Une semaine sur deux, le séminaire était public, il y parlait seul. L'autre semaine, le séminaire était réservé à ceux de ses élèves qu'il considérait comme des pairs. Cette décision de compromis montre comment Barthes chercha à sa façon à dépasser la tension dialectique de l'érudition poussée et du souci d'atteindre l'opinion entre cénacle et spectacle. À travers Barthes, il vient d'être fait allusion à la photographie. Les nouvelles façons de pratiquer l'histoire avaient attiré l'attention sur de nouveaux types de documents. Et les sciences sociales pesaient, elles aussi, parce qu'elles ne privilégiaient plus les sources écrites et qu'elles devaient recueillir sur le terrain les témoignages sur lesquels elles travaillaient. Or, l'un des premiers historiens à avoir compris l'importance de cette nouvelle technique qu'était la photographie fut un historien classique, l'archéologue et byzantiniste Gabriel Millet, qui mena de grandes campagnes de prise de vue en Grèce, en Macédoine et dans les Balkans. Le PHE conserve la photothèque Millet, qui contient environ 130 000 photos, dont la numérisation a été entreprise depuis plusieurs années. Ce fonds patrimonial unique résulte de l'intuition d'un homme qui, aussitôt arrivé à Athènes en 1891, comprit que la photo lui permettrait de documenter l'art byzantin et le fait religieux. Ainsi recueillit-il les traces d'une mémoire architecturale et artistique de monuments dont bon nombre ont aujourd'hui disparu ou ont été transformés. Dans cet ordre d'idées, il faudrait mentionner les différents sites archéologiques tout autour du bassin méditerranéen et au Moyen-Orient comme en Asie, et on pense bien sûr à Paul Pelliot à Dunhuang. Je ne retiendrai qu'un exemple en raison de son analogie avec le sauvetage byzantin de Millet. Durant 7 décennies, le PHE s'est vu confier la mission de fonder une école d'archéologie islamique face à Daesh, dans la province autonome du Kurdistan irakien. La formation doctorale d'étudiants kurdes a été interrompue par la prise de Mossoul en juin 2014 et l'entrée en guerre du Kurdistan irakien menacé par Daesh. Malgré cette conjoncture très défavorable, des manifestations scientifiques ont été organisées, notamment un colloque à l'université Salah al-Din d'Irbil. Et au cours d'une mission à Mossoul, un étudiant kurde de l'EPHE a pris des milliers de photos de documents, de monuments, qui devaient ensuite être détruits par Daesh, notamment les tombeaux des prophètes Jonas, Seth et Daniel et la mosquée al-Nouri. Ces photos sont les derniers témoignages et des documents uniques qui permettront un jour une reconstitution en 3D, voire plus hypothétiquement la restauration des monuments. Sans revenir sur André Chastel, notons par parenthèse que la création de l'inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France relevait d'un geste comparable. Inventorier et classer est un acte savant qui permet la prise de conscience de la valeur inestimable d'un patrimoine quel qu'il soit et qui informe la décision politique à son sujet. Osons le parallèle avec les travaux menés par l'école en biodiversité, tant terrestre que marine, avec une spécialisation mondialement reconnue dans les récifs coralliens du Pacifique. Cette activité d'inventaire patrimonial, soit dans le domaine de la vie, soit dans celui de la culture, rassemble des scientifiques par-delà les différences de leurs méthodes. Et puisqu'il est question de dialogue entre sciences de la vie et de la terre et sciences humaines et sociales, peut-être n'est-il pas inutile de rappeler au passage que ce qu'on appelle l'anthropologie désigne bien sûr la science sociale à laquelle Lévi-Strauss a donné ses lettres de noblesse, mais à l'EPHE ce fut également une discipline de la biologie qu'illustrèrent notamment Paul Broca, puis le savant jésuite Pierre Teilhard de Chardin en paléontologie. Un mot encore à ce sujet pour mentionner le cinéma, dont le médiéviste Mario Roque, président de la 4e section, et le psychologue Henri Wallon avaient bien conscience qu'il renouvelait lui aussi les méthodes d'investigation scientifique. On sait qu'avec les ethnologues Germaine Dieterlin et Jean Rouche est apparue la cinématographie des rites, qui a non seulement permis de documenter et d'enrichir l'approche des religions d'Afrique noire, jusqu'alors souvent cantonnée à l'étude de récits mythiques, mais a aussi enrichi l'approche anthropologique de rituels dans des civilisations de l'Antiquité, par exemple. Ce qui précède m'offre une transition avec la question des sciences religieuses en tant que telles. La loi de finances de mars 1885, ayant supprimé les crédits alloués au traitement des professeurs des facultés de théologie catholique, il est décidé que la dotation de l'école pratique sera augmentée de manière à permettre la création de la 5e section. Il est admis alors que les religions, quel que soit le point de vue auquel on les envisage, constituent une portion intégrante de l'histoire de l'humanité et qu'il y a lieu dès lors de les soumettre, comme l'histoire elle-même, à la comparaison, à la critique et d'en montrer l'enchaînement et la filiation. Cette perspective, qui s'inspire en partie de la mutation opérée dans les facultés de théologie protestante des Pays-Bas, suscite évidemment bien des critiques de la part de l'Église catholique. Les futurs enseignants vont devoir se prononcer soit pour la vérité du catholicisme, et dans ce cas il est inutile de supprimer les facultés de théologie catholique, soit contre cette vérité, et alors la neutralité promise sera violée. On rétorque que ces savants feront œuvre de recherche et de critique, qu'ils examineront des textes et ne discuteront pas des dogmes. Mais le processus d'institutionnalisation des sciences religieuses est à Paris bien moins doux qu'en Hollande. Tandis qu'à Leyde ou à Amsterdam, les mêmes pasteurs-professeurs restent en place et transforment l'intitulé et le contenu de leurs cours, à Paris, un nouveau personnel très lié au Collège de France assure les nouveaux enseignements. 5 des 11 premiers titulaires appartiennent au protestantisme, 4 étant même des pasteurs ou ex-pasteurs, Albert Réville en histoire des dogmes et Jean Réville, son fils, en histoire de l'Église et de la littérature chrétienne, Auguste Sabatier, Louis Massebiot, Maurice Verne en religion d'Israël et des sémites occidentaux. Il couvre le domaine des études sémitiques et chrétiennes, à l'exception des origines du christianisme, dont l'étude est confiée à Ernest Havé. Le seul catholique déclaré est alors votre collègue juriste Adhémar Esmin en histoire du droit canonique. Les autres enseignants sont Abel Bergagne en religion de l'Inde, Hardwick Derenbourg en islamisme et religion de l'Arabie, Léon de Rony, religion de l'Extrême-Orient. Léon de Rony, homme à la culture encyclopédique, japonologue et orientaliste, mais aussi ethnologue, linguiste, américaniste, précolombien. Et Eugène Lefébure en religion de l'Égypte. Un an plus tard, un 12e enseignement sera assuré par André Berthelot, le fils de Marcellin, en religion de la Grèce et de Rome. Et je ne puis arrêter cette liste sans citer votre confrère Oscar Kuhlmann, immense spécialiste, mais venu bien plus tard, des études néo-testamentaires et titulaire de la chaire d'origine du christianisme de 1948 à 72. Ce coloriage protestant des origines de la 5e section s'enrichit bientôt d'une très importante nuance chromatique avec les études juives. Elles avaient été lancées dès 1877 avec les cours en langue, littérature et histoire juive post-biblique qu'assurait Joseph Derenbourg, le père d'Hardwick, membre de l'Institut, formé aux études rabbiniques dès son enfance à Mayence, puis à l'arabe à Bonn. En sciences religieuses, on commence par le cours sur les religions d'Israël et des sémites orientaux occidentaux de Verne. À partir de 1896, le judaïsme biblique, post-biblique, dispose d'un enseignement unique en Europe, avec la chaire de judaïsme talmudique et rabbinique confiée à Israël Lévy, directeur de la revue des études juives et futur grand rabbin de France. Son enseignement du Talmud, de la littérature juive et des textes de la Guénisa du Caire suscite l'admiration d'élèves tels que Marcel Mauss et Henri Hubert, ou encore celle de son successeur Maurice Liber, rabbin et directeur du séminaire israélite. En 1955, la chaire est occupée par l'historien de la philosophie Georges Vajda et renommée successivement judaïsme post-biblique, puis judaïsme médiéval. Les études juives ont donc à l'EPHE pu naître du renoncement à une approche théologique au bénéfice de cette approche critique et républicaine typique des sciences religieuses. J'ai parlé de décolonisation à propos de Germaine Tillion. Il convenait aussi de décoloniser les esprits. La section des sciences religieuses créa dès 1890 une chaire de religion des peuples non civilisés, ce qui en dit long sur l'idée que on se faisait alors de la civilisation, mais exprime aussi l'ambition mondiale de l'appréhension du phénomène religieux. Cette chaire fut occupée successivement par Léon Marillier, Marcel Mauss et Maurice Lénart, grands ethnologues des langues et des civilisations kanaks. À Nouméa, Lénart prend nettement position contre le travail forcé et les spoliations foncières qui bénéficient aux grands colons. Mais c'est avec son successeur que s'opère une forme de décolonisation mentale, avec Lévi-Strauss, l'intitulé de la chaire de la cinquième section, « Religion des peuples non civilisés », devient en 1954 « Religion comparée des peuples sans écriture ». Parallèlement, sa direction d'études à la sixième, « Civilisation primitive » et renommée « Anthropologie sociale ». Autre exemple de décolonisation mentale, dans son séminaire sur l'Amérique précolombienne, comme on a longtemps dit, Georges Reynaud propose, avant Paul Rivet et la création du Musée de l'Homme, une approche rigoureuse des sociétés précolombiennes qui ne doivent plus être perçues comme inférieures à la culture catholique de leurs conquérants. Dans un annuaire de la cinquième section, Reynaud publie un article sur l'implacable providence de l'ancien Mexique, consacré pour l'essentiel au dieu Tezcatlipoca, ce dieu, dit-il, qui, dans les panthéons mexicains, occupe la plus haute place, qui, par certains côtés, se rapproche sinon de notre dieu, du moins de la conception que certains Européens s'en sont faites. Tezcatlipoca est une providence intéressée, inconcevablement égoïste, sans aucune bienveillance, n'ayant que de la colère, de la haine, sans pitié, sans amour. Et en note finale, Reynaud fait cette réflexion au XVIe siècle, lorsque d'Europe des hommes vinrent apporter au nom d'un dieu de paix dans l'Amérique ancienne, l'esclavage, la ruine et la mort, les Mexicains purent croire que rien n'était changé dans leur Olympe, car le nouveau maître du monde, la providence adorée par les Blancs, n'était-elle pas, elle aussi, pour eux, lamentable victime, qu'une implacable providence ? Cette approche, qui décentre et déconfessionnalise, naît là encore des sciences sociales ainsi que du comparatisme, d'un comparatisme qui pousse au relativisme. On pense toujours à Léon de Rony, mais aussi à Georges Dumézil, en mythologie comparée. Et on pourrait en fournir maintes autres exemples dans les disciplines érudites classiques. Par exemple, dans l'œuvre de l'indianiste spécialiste de littérature et sanskrit Sylvain Lévy, dans les recherches que Bernard Franck mène dans le cadre de ses recherches sur le bouddhisme japonais. On a parlé, s'agissant de l'islam, de Louis Massignon, mais mentionnons également Henri Corbin, qui par l'édition de textes, la mise en valeur de mouvements chiites, duodécimains et ismaéliens, par la valorisation des dimensions philosophiques des courants chiites et mystiques, participait au refus d'une approche orientaliste, refus auquel contribueront chacun à sa façon, Régis Blachère et Maxime Rodinson. Le moment catholique de l'EPHE devait venir plus tard, notamment avec deux immenses érudits qui étaient Jean Orcibal et votre confrère et mon prédécesseur à la présidence de l'école, Bruno Neveu. Au total, on n'est pas étonné que cette approche scientifique, donc laïque, des religions et des faits religieux, ait débouché en 1990 sur la création de la première chaire d'histoire et sociologie de la laïcité dans l'enseignement supérieur. Et en 2002, l'école a créé un institut européen en sciences des religions, grâce auquel elle s'efforce de mettre son expertise au service de la société en proposant des formations aux fonctionnaires de différents ministères, en animant un réseau de correspondants européens et en jouant un rôle d'observateur du religieux. Pour terminer ce panorama, un mot encore des périodiques, qui furent vecteurs de diffusion des recherches et des réflexions dont il a été question. L'école a été très étroitement associée à la rédaction et à la politique éditoriale de quatre d'entre eux, ces revues. La revue critique d'histoire et de littérature fondée en 1866, dans laquelle étaient très engagés Gaston Paris et Charles Morel, répétiteurs de philologie et d'antiquité romaine. Inspirée du Literarisches Centralblatt, cette revue entendait servir d'organe à l'érudition française, sans négliger les contrées étrangères, et tout particulièrement l'Allemagne, en un mot familiariser les Français avec le mouvement scientifique. Les futurs fondateurs de l'EPHE, qui allaient lutter contre l'université spectacle, assumaient cette haute érudition. Nous ne craindrons pas les détails et les particularités techniques. Nous savons que ces minuties apparentes sont plus utiles à la science que des considérations pompeuses et vaines. L'historien Rodolphe Reuss devait y publier près de 1500 articles en un demi-siècle. Bréal et Monod en furent également des réguliers contributeurs. La revue historique déjà mentionnée, fondée par Gabriel Monod en 1876, qui affichait son refus de tout marquage confessionnel contre la revue des questions historiques catholiques ultramontaines, et qui compta notamment parmi ses collaborateurs Ernest Havet et Arthur Giry. La revue de l'histoire des religions, fondée en 1880 par Verne, auquel succéderont Marie Lier et Jean Réville, et à laquelle le spécialiste des christianismes orientaux Antoine Guillaumont contribuera par la suite. Cette revue était et reste très exactement l'émanation de l'idée qui présida à la fondation de la section des sciences religieuses. La revue des études juives, enfin, également fondée en 1880 par Isidore Loeb et Israël Lévy, qui assura le développement français du modèle Wissenschaft des Judentums. Tous les spécialistes des études juives déjà cités y publièrent et y prirent une part de responsabilité. À leur nom, il faut ajouter ceux de grands savants plus récemment disparus et très regrettés, Charles Touati et Gérard Naon, disparus cette année. On a fait l'hypothèse, ce seront mes lignes de conclusion, au début de cette allocution, de rapports que le PHE entretient à l'opinion, faisant penser à des courants qui circulent dans les fonds sous-marins, invisibles mais puissants, plutôt qu'à des vagues spectaculaires qui déferleraient sur le rivage. J'espère avoir montré, en dépit de la diversité des disciplines et de la multiplication des noms qu'imposait cette approche, je vous en ai infligé quasiment une centaine, comment l'école a accompagné son époque à travers ses différentes périodes et a contribué à sa manière, par l'outil commun de l'érudition, à façonner l'opinion. Je vous remercie.